Par contre, petite lueur d'espoir. Récemment, j'ai reçu de la part d'un nouvel éditeur avec qui je travaille donc depuis très récemment, le manuscrit d'un roman. Et ce manuscrit est protégé. Il est impossible de faire des copier-coller, de sélectionner du texte dessus pour faire des copier-coller. Il est barré, en fait la page est barrée d'un grand bandeau, je sais plus ce qu'il y a marqué, genre
privé, un truc
ouais,
comme
interdit
ça.
À la distribution, ou je sais pas quoi, interdit, je sais même plus ce qu'il y a marqué. Et donc j'ai demandé à l'éditrice, je lui dis bon, ça me fait un peu mal aux yeux là quand même le bandeau, on peut pas avoir une version déverrouillée, et en fait elle a pas pu l'obtenir de la part de l'agent.
Ah oui.
Donc là je me suis dit tiens.
Il y a des choses mises en place quoi,
pour
contrer. Il
y a quand même petit à petit voilà, des auteurs qui disent « Moi, je veux bien vous vendre mes droits à la traduction, mais vous allez le faire traduire par un humain. » Et donc ça se ressent, ça commence à se ressentir au niveau des contrats qu'on signe avec les éditeurs. Mais moi, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore eu de clause, on ne m'a pas encore imposé une clause spécifique dans le contrat. Voilà. Et on ne m'a pas non plus, enfin moi non plus, j'ai pas. Par contre, là, ce qu'on nous conseille de faire, les syndicats comme la TLF, c'est de. Qui n'est pas encore un syndicat d'ailleurs, pardon, je vais me faire reprendre. L'Association des traducteurs littéraires de France, qui réfléchit à devenir un syndicat, peut-être. On nous conseille de réclamer une option, alors je crois que ça s'appelle opt-out. C'est une manière de signifier qu'en fait qu'on s'oppose à ce que notre texte traduit, notre traduction, soit utilisée à des fins d'entraînement de modèles de langage. Voilà. C'est ce qu'on nous conseille de faire et je crois qu'on va tous s'y mettre parce que ouais. Là ça va tellement vite que il y a une phase, je crois, d'observation. Une phase de peut-être d'émerveillement pour certains ou d'effroi pour d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que là, même s'il y a des progrès énormes, il y a de toute façon encore besoin d'humains pour au minimum post-éditer des textes, on va dire, qui n'ont pas une forte plus-value, voilà, en termes de style, en termes de, voilà, de genre. Mais après, je pense qu'il va y avoir deux marchés, enfin il y a deux marchés qui sont en train clairement d'émerger. C'est un marché low cost, mais je pense qu'on va en reparler plus tard, un marché de la traduction low cost et un marché de la traduction où les traducteurs recevront des manuscrits qui ne pourront pas copier-coller et qui ne pourront pas importer dans des IA de traduction.
Alors, est-ce que vous constatez une différence de l'usage de l'IA, d'utilisation de l'IA dans des non-fictions? On a vu notamment que vous traduisiez des documentaires, par exemple.
Oui, comme je disais, moi, dans mon usage personnel en documentaire, je me sers de l'IA vraiment pour de la documentation, de la super documentation, je ne sais pas comment appeler ça, de la méta-documentation, en fait, qui permet vraiment, c'est prodigieux, la vitesse à laquelle on peut trier des sources. Et faire des recoupements ou pas, ou retrouver des citations, ou retrouver le traducteur de 1806 qui a traduit Marc Aurèle. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Après, ce qu'on a vu là récemment en France, en plus c'est une première mondiale, qui vient de France. Alors, je sais pas si je peux citer le nom. Un grand éditeur de romances, très grand public, pour lequel j'ai travaillé en plus au début. Voilà, j'ai fait mes débuts avec les éditions Harlequin du groupe HarperCollins, qui a annoncé donc en fin d'année 2025, alors comment appeler ça, c'est une forme de délocalisation, qui délocalise une partie des traductions de ses collections vers une agence qui les passe dans de l'IA. Donc des textes intégralement passés dans de l'IA, de la première à la dernière ligne, et qui sont ensuite relus et corrigés par des traducteurs, qui ne sont plus du coup des traducteurs littéraires, qui ne sont plus propriétaires de la propriété intellectuelle de cette production, et qui sont payés, je crois, 3 ou 4 fois moins cher que le tarif auquel ils étaient payés quand ils travaillaient chez Harlequin. Voilà. Donc, c'est très récent. Je ne sais pas ce que commercialement, enfin si, on sait très bien ce que cherche cet éditeur commercialement, hein, c'est la, voilà, une rentabilité maximale. Est-ce que les lecteurs vont suivre? Enfin, les lectrices, c'est plutôt des lectrices. Est-ce que les auteurs, les autrices vont suivre? Est-ce qu'ils vont faire... Bah, pour l'instant, ils disent que c'est que sur une ou deux collections, si j'ai bien compris.
Oui, je crois.
Est-ce qu'ils vont l'élargir? Est-ce que... Voilà.